Alors, je vous propose de faire trois lectures. Nous allons parler, j'avais préparé, je l'ai même déjà un peu annoncé, mais un sujet un peu spécial. J'avais pensé à parler de l'hérédité et du péché originel, entre guillemets. Et je me suis dit que ce n'était pas encore tout à fait adapté, enfin tout était prêt, mais hier la pensée m'est venue d'aborder un autre sujet avec vous. Nous parlerons des trois grands rassemblements qui ont lieu ou qui auront lieu à la fin des temps. Alors je vous propose à cet effet de faire une lecture d'abord dans, il y aura trois courtes lectures dans Ézéchiel au chapitre 36 et au verset 24. Ézéchiel. Chapitre 36, verset 24. Tout le monde entend bien, ça va? Ok. Vous remarquerez que dans l'ensemble de ces lectures que nous allons faire, il y a souvent un verbe qui est utilisé, c'est rassembler, ou alors le mot rassemblement. Alors, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Ça, c'est la première lecture. La seconde se trouve dans le prophète Zacharie, au chapitre 12e, et les versets 2 et 3. Alors, Zacharie, chapitre 12, versets 2 et 3. Je vous laisse le temps de chercher. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et une dernière lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Et nous lirons là, c'est un peu plus long, versets 21 à 31. Alors Matthieu chapitre 24, versets 21 à 31. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors « le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux Messie, et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, et là s'assembleront les vautours. Et je précise, je préfère le mot vautour au mot aigle. Parfois, c'est interprété avec le mot aigle, mais les aigles ne sont pas des charognards, alors que les vautours le sont. Alors, donc, trois grands rassemblements à la fin des temps. Et nous sommes dans des temps qui sont en pleine mutation. Vous allez me dire, mais ils ont toujours été en mutation, les temps, pas toujours forcément. Il y a eu de grands calmes plats au travers de notre histoire. Et actuellement, et de plus en plus rapidement, on peut dire que notre monde, le monde entier, est en pleine mutation. Je ne veux pas simplement revenir sur les récents événements du monde arabe, mais nous sommes en plein délire dans certains cas. Alors, la clé des prophéties se trouve dans ces trois grands faits de l'histoire des hommes, c'est-à-dire trois grands rassemblements. Et si l'on parvient, en se basant sur les Saintes Écritures, à bien situer chacun de ces rassemblements dans la marche chronologique des événements, on peut dire que la révélation apparaît alors plus simple et facile à comprendre. Alors, une petite explication rapide sur le mot « révélation ». Lorsque la Bible parle de révélation, elle décrit simplement le Dieu créateur dévoilant aux humains, sa puissance et sa gloire, dévoilant aux humains également sa nature et son caractère, sa volonté, ses voies, ses projets, c'est-à-dire sa personne même, de sorte qu'on puisse réellement le connaître. et plus encore, elle exprime l'idée d'éclaircir ce qui est obscur, de mettre en lumière ce qui est caché, de communiquer des signes et des paroles et de faire en sorte que les personnes à qui elle est destinée voient, entendent, perçoivent, comprennent et sachent. Et ces temps que nous sommes en train de vivre, je répète, en pleine mutation, ils bougent sans arrêt, d'un jour sur l'autre, les choses changent, eh bien, ce que nous sommes en train de vivre va nous permettre de mieux comprendre un certain nombre de prophéties bibliques, me semble-t-il, et nous aurons besoin, et nous avons besoin, de toute la révélation divine. Elle va donc se concentrer sur deux points principaux, tout d'abord sur les projets de Dieu et sur la personne de Dieu. Et nous allons parler ce matin des projets de Dieu concernant ce monde qui nous entoure, et parmi les projets de Dieu, il y a donc ces fameux trois grands rassemblements qui vont nous occuper. Alors, nous allons parler, évidemment, commencer avec le grand rassemblement d'Israël. Vous allez me dire, c'est votre dada, on sait ce que vous allez dire, pas forcément. Mais enfin, il faut quand même que nous fassions une petite page d'histoire. J'ai enseigné quand même l'histoire pendant des dizaines d'années, l'histoire biblique, évidemment, et je pense que il n'est pas mauvais de revenir sur une petite page d'histoire de l'Ancien Testament d'abord, puisqu'il s'agit du rassemblement d'Israël. Après avoir quitté l'Égypte, après avoir traversé miraculeusement la mer Rouge, après avoir erré pendant 40 ans dans le désert du Sinaï, le peuple d'Israël, à ce moment-là, se trouve rassemblé devant le Jourdain, sous la direction de Yéhoshoua, Josué, successeur de Moïse. Donc il va franchir ce Jourdain lorsque les eaux s'arrêtent par miracle et il nous est dit au son des trompettes, il se lance à l'assaut de la ville de Jéricho. Je ne ferai qu'un résumé, n'ayez pas peur, je n'entrerai pas dans tous les détails. Alors, le peuple estimé à l'époque à environ 1,5 million à 2 millions d'hommes, femmes et enfants va alors prendre possession du pays promis par Dieu à Abraham. Je rappelle que Dieu ne s'est jamais repenti d'avoir donné en possession ce pays-là. Alors nous sommes vers l'année 1450 avant Jésus-Christ, donc 15e siècle avant Jésus-Christ. Et le peuple d'Israël va donc s'installer, va s'organiser dans le pays que Dieu a donné à leur père. Alors les juges, les rois se succèdent. Jérusalem, Yerushalayim, va devenir la capitale d'Israël. Le temple de Salomon va y être construit, et c'est donc vers 975 environ. Des prophètes se lèvent pour annoncer le jugement sur le peuple qui est à ce moment-là rebelle à son Dieu. Le royaume d'Israël va se diviser en deux parties après la mort de Salomon. Il y aura donc au nord, il y aura Israël, avec pour capitale Samarie. Au sud, il y aura Juda. Avec comme capitale Jérusalem, et viendront ensuite les déportations successives, il y a eu de très nombreuses, la dispersion également, ce qu'on appelle la diaspora, mais les 10 tribus du Nord constituant le royaume d'Israël vont être ensuite amenées en captivité par le roi d'Assyrie, et nous sommes là en 722 avant Jésus-Christ. Ensuite, 156 ans plus tard, il s'agira du royaume de Juda, emmené à son tour en captivité. Donc, c'était les tribus du sud, c'était Juda et Benjamin. Pas mon frère qui est là, c'est pas pareil. Donc, c'est ce fameux Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor qui va déporter Juda et Benjamin donc, en Babylonie. Et nous sommes là en 586 avant Jésus-Christ. Petite parenthèse, c'est une question biblique, je la pose et je vais y répondre très rapidement pour ne pas vous faire languir. Il est fait mention dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, entre autres, chapitre 21, verset 24, il est fait mention de la fin du temps des nations. Alors je vous pose la question, quand commence le temps des nations ? Alors, je vous donne la réponse en même temps. Je viens de citer la date. C'est 586 avant Jésus-Christ. Alors, je vous pose une autre question. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'à partir de cette date qui correspond à la date du commencement du temps des nations, à partir donc de 586 avant Jésus-Christ, non seulement Nébuchadnezzar et la Babylonie va prendre l'hégémonie sur Israël, mais à partir de cette date, et depuis cette date, il n'y a plus eu en Israël, jusqu'à maintenant, aucun roi de descendance davidique qui ait gouverné sur le peuple. Et c'est la raison pour laquelle c'est le commencement du temps des nations, et Luc 21-24 annonce cette période de la fin du temps des nations. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que nous sommes actuellement, et depuis, on peut dire, 1967, dans cette période intermédiaire de la fin du temps des nations. Cela veut dire, bibliquement parlant, que Dieu va se tourner de plus en plus vers Israël. Il ne délaissera pas les nations. Mais nous allons parler du rassemblement des nations dans un instant. Pour l'instant, nous en sommes à Israël. Et dans cette période, toujours intermédiaire, va se jouer le sort des nations et le sort d'Israël. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette petite parenthèse. Alors, le temple de Salomon va être brûlé, donc du temps de Nébuchadnezzar. Les murailles de Jérusalem seront détruites et tout ce qui a une quelconque valeur va être emmené en Babylonie. Après 70 ans de captivité, de 606 à 536, comme Jérémie le prophète l'avait annoncé, le retour au pays va pouvoir donc s'opérer par le moyen d'un édit d'un roi, Cyrus, un roi païen, en 538, sous la conduite de Zorobabel, d'Esdras et de Néhémie. Alors, chose étrange, Dieu se sert de qui il veut, quand il veut et comme il veut, et entre autres de ce fameux roi Cyrus, dont il va se servir, qu'il va utiliser pour décréter donc que le peuple d'Israël pouvait rentrer dans l'Eretz, c'est-à-dire dans la terre des ancêtres. Alors, une vingtaine d'années plus tard, le temple, donc après 538, le temple est entièrement rebâti, et lors de sa dédicace, le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites vont célébrer cet événement avec joie et vont offrir, je l'ai noté, 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et 12 boucs expiatoires, un par tribu. Alors maintenant, on va accélérer le mouvement de l'histoire de cette époque. La réparation des murailles de Jérusalem est achevée vers 445 avant Jésus-Christ, sous la direction de Néhémie. Et j'arrête là cette page d'histoire. Et je vais la reprendre maintenant au temps de Jésus. Quand Jésus naîtra à Bethléem, il y aura en Israël entre 2 et 3 millions, le chiffre n'est pas forcément absolu, mais entre 2 et 3 millions de Juifs qui habitaient à l'époque en Israël. Alors, 70 ans plus tard, selon la prophétie même de Jésus-Christ, Jérusalem va être assiégée par les soldats romains, puis prise et le temple complètement incendié par Titus, qui amènera jusqu'à Rome, et on en voit encore les vestiges à Rome, il amènera le fameux chandelier, l'amènera à cette branche. Et encore une fois, le peuple d'Israël va être emmené en captivité, et cette fois parmi toutes les nations, d'où il retourne depuis le début du XXe siècle. Même à cette époque, ils vont être vendus comme esclaves sur les marchés d'Alexandrie, entre autres, en Égypte. Les Juifs, j'entends. Alors, les prophéties relatives au retour dans la terre promise, ces prophéties sont en train de se réaliser, on peut dire depuis déjà le début du XXe siècle, et c'est surtout à partir évidemment de 1948 que l'ensemble de ces prophéties s'accélère. Alors, j'ai noté 4 ou 5 prophéties que je vais vous lire qui prouvent que Dieu a préparé ce rassemblement d'Israël. Ésaïe 11, versets 11 et 12, il est dit « Le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. » Et un peu plus loin, au verset 12, « Il rassemblera les exilés d'Israël des quatre extrémités de la terre. Une autre prophétie, donc nous l'avons lue en partie, dans Ézéchiel 36, au verset 24, pardon, « Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Il y a toujours au centre ce verbe ou ce mot de rassemblement ou rassembler. Ézéchiel 37, verset 21, il est dit « Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. » Et enfin, une dernière prophétie contenue dans le prophète Sophonie, chapitre 3, verset 20. « En ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai. » Il y a certainement d'autres prophéties encore concernant ces rassemblements, mais j'ai pris les principales. Alors, nous assistons justement de nos jours, et depuis donc 1948, à ce grand rassemblement. Les Israélites sont déjà de retour, mais pas en totalité en Israël. Ils sont rassemblés d'entre plus d'une centaine de nations. Vous pouvez aller en Israël aujourd'hui, que vous parliez français ou anglais ou russe ou n'importe quelle autre langue, vous avez toujours un interlocuteur capable de vous répondre parce qu'ils arrivent d'au moins 100 nations. Alors, ils sont arrivés par vagues successives, surtout au lendemain de la dernière guerre, 39-45, forçant le barrage établi par les Anglais, puis tout à fait librement, ils sont venus. Et ils sont venus d'Amérique du Nord, ils sont venus également d'Amérique du Sud, beaucoup sont arrivés d'Afrique du Nord, d'Europe occidentale, et depuis peu, de l'Europe de l'Est, du Yémen, de l'Irak, de l'Iran, de l'Inde, et même d'Éthiopie avec les fameux falachas. Alors ça peut paraître étrange de voir des gens de couleur noire se disant juifs, et ils le sont. Ils remontent à la reine de Séba ou de Saba. Alors je vous rassemblerai, ils sont actuellement environ 5 millions, le chiffre n'est pas exact, il est plus ou moins, il varie en fonction des historiens, mais ils sont actuellement plus de 5 millions en Israël. Et depuis la guerre des six jours, les deux parties de la ville de Jérusalem sont réunifiées. J'y suis allé en 1968 et il existait avant cette date, jusqu'en 67, une porte qui séparait la vieille ville de Jérusalem de la nouvelle ville. Cette porte s'appelait la porte Mandelbaum. Elle a sauté donc, je pense, en 1967. Donc, il n'y a plus cette différenciation, il y a Jérusalem tout court. Alors, Jérusalem, capitale donc de l'État d'Israël. Et là aussi, les nations ne sont pas tout à fait d'accord. Elles voudraient que ce soit Tel Aviv et que Jérusalem devienne une ville internationale. Et pourtant, pour Israël, Jérusalem, Yerushalayim, qui veut dire fondement ou cité de paix, est réellement la capitale pour les Israéliens. Et maintenant, cette capitale constitue une vraie pomme de discorde, une pierre pesante, comme nous l'avons lu dans Zacharie, pour tous les peuples qui veulent y toucher ou qui désirent la soulever. Et toucher à Jérusalem et toucher à Israël, c'est toucher à la prunelle de l'œil de Dieu, est-il dit dans l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi on assiste aussi maintenant à un deuxième grand rassemblement dont nous allons parler. C'est le rassemblement des nations. Nous sommes, je le disais cette semaine, nous avions trois jours ici au premier étage avec des collègues, trois jours pour consacrer à l'examen des formulaires des futurs pasteurs de notre mouvement. Et je leur disais, nous sommes en train de vivre des temps non seulement bibliques, mais aussi historiques, à la fois bibliques et à la fois historiques. Alors, rassemblement des nations. Déjà, après la guerre des six jours, en 1967, je le précise, on avait entendu à l'ONU l'ensemble des nations condamner Israël. Mais pendant la guerre de Kippour, en 1973, celle-là, et depuis, on peut dire que c'est l'escalade de l'attitude des nations contre Israël. Il y a eu l'Égypte en son temps, il y a eu la Syrie, et les unes après les autres, les nations et les peuples d'alentour leur prêtent main forte. Vous lirez à ce sujet Joël chapitre 3 verset 11 et Zacharie 12 2. Il y a eu ensuite l'Irak, il y a eu la Syrie, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Nord, etc. Et ce sont autant de nations qui, les unes après les autres, s'élèvent contre tout ce que fait Israël. En bien ou en mal, c'est toujours mal. Alors ensuite, les super grands apportent des armes et chacun choisit son camp. Évidemment, ils sont libres. Le monde entier est néanmoins angoissé et de plus en plus angoissé. Une étincelle, me semble-t-il, suffirait pour déclarer l'orage atomique. À l'heure actuelle, si vous n'en êtes pas conscient, je vais vous en faire prendre conscience. Israël est quasiment pris en sandwich entre l'Égypte et l'Iran. C'est la réalité que nous sommes en train de vivre. Il y a plus de 80 millions d'Égyptiens actuellement. Et de l'autre côté, beaucoup moins. Mais il n'y a qu'une pensée du côté iranien, c'est de détruire le plus rapidement possible l'État d'Israël, le faire disparaître à jamais. Et une certaine propagande nous dit qu'il faut non seulement supprimer Israël, mais tout ce qui les concerne, parce que tout simplement, si nous désirons un monde en paix, c'est à cause d'eux que nous sommes en guerre. Donc, c'est une idée qui prend corps progressivement, et de plus en plus, on essaye, par tous les moyens, les médias entre autres, de communiquer cette information en disant « supprimons Israël et nous aurons la paix ». Alors, le cessez-le-feu a fait place à la guerre du pétrole. Et sous diverses pressions du Moyen-Orient, les nations se rassemblent actuellement contre Israël au niveau le plus international possible. Et ils se rassemblent pour lui dire de se retirer sur les frontières d'avant 1967, c'est-à-dire d'abandonner Jérusalem pour enfin obtenir la paix à tout prix. Il y a même des Israéliens qui ont traduit cela « peace now » en anglais, « la paix maintenant ». C'est-à-dire, ils militent pour faire toutes sortes de concessions pour qu'enfin il y ait la paix. On comprend cela, humainement parlant, qu'ils jouissent un peu de paix, car depuis qu'ils sont installés là-bas, c'est une guerre tous les quelques années. Hein. Alors, Jérusalem est de plus en plus l'objet de pourparlers politiques et autres. Et aujourd'hui, nombreux sont les chrétiens qui s'interrogent pour savoir ce que seront les événements de demain, justement à la lumière des prophéties bibliques. Pardon. Tout ce que nous sommes en train de vivre, et c'est pour ça que peut-être le Seigneur a permis que je change un peu mon fusil d'épaule à propos de message aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle n'est pas fortuit. Ce n'est pas le pur hasard de la diplomatie ou de la politique des hommes. C'est quelque chose qui est pensé, voulu, permis par Dieu. L'Égypte, la Bible en parle. La Syrie, S-Y, la Bible en parle. Le Liban, la Bible en parle. L'Iran, la Bible en parle, c'est la Perse. L'Irak, la Bible en parle, dans le prophète Ésaïe, entre autres, etc. Alors, si vous lisez votre Bible, non pas simplement en transformant les noms, mais avec, je dirais, des lunettes bibliques, vous vous rendrez compte très vite, très rapidement, que nous sommes en train de vivre, comme je le disais tout à l'heure, des temps bibliques et des temps prophétiques. Je crois à ce que toute la Bible dit de la Genèse à l'Apocalypse. J'y crois fermement. Je crois en l'enlèvement de l'Église également, on en parlera dans un instant. Mais je crois également que ce que la bouche de Dieu a dit, il l'accomplira, quoi que cela coûte aux hommes et aux nations. Alors, il me semble nécessaire maintenant de rappeler quelques prophéties bibliques, entre autres. Zacharie au chapitre 12, verset 2. « Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples d'alentour. » Il est dit. Hein. Zacharie 12, 3. « Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Zacharie 14, 2. « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » J'ai noté encore Apocalypse 16, versets 14 à 16. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et ce n'est pas fini. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmagedon, la colline de Megiddo. Dernière prophétie, il y en a d'autres. Joël chapitre 3, verset 2. Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles ont partagé. Alors, quand je donnais des cours aux futurs pasteurs en Suisse et en France, je leur disais, je n'enseigne pas l'histoire pour l'histoire, j'enseigne l'histoire biblique pour qu'on comprenne mieux que tout est pensé par le Seigneur. Rien n'est fortuit, rien n'est hasardeux. Et il y a un texte sur lequel je m'appuyais pour dire cela, il se trouve dans le livre du Deutéronome, je ne me rappelle plus du chapitre, mais enfin peu importe, il est dit, je disais à ses étudiants, l'histoire de notre monde dépend de l'histoire d'Israël, et non pas l'histoire d'Israël dépendrait de l'histoire du monde. C'est tout à fait différent. Quand il a mis Israël à part, le Seigneur, il est dit dans le livre du Deutéronome, entre autres, qu'il l'a mis à part, non pas parce qu'il était mieux que les autres, etc. C'est le problème de l'élection d'Israël, mais il l'a mis à part en fonction du nombre des enfants d'Israël, c'est écrit comme ça, et non pas en fonction du nombre des nations qui surpassaient largement le nombre des enfants d'Israël à l'époque. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle encore, au XXIe siècle, l'histoire des nations, votre histoire et la mienne, est complètement dépendante de l'histoire d'Israël. Et aujourd'hui, plus que jamais, en fonction de ce que nous sommes en train de voir et de ce qui se réalise au Proche et au Moyen-Orient, nous pouvons être sûrs que nous avons atteint une page déterminante pour l'histoire d'Israël et pour l'histoire en même temps des nations. Alors vous comprendrez bien que les nations ne pouvaient pas se rassembler tant qu'Israël n'était pas lui-même rassemblé. Alors une question, devons-nous cependant attendre que tout Israël soit rassemblé ou admettre tout simplement qu'une partie d'Israël restera dans la diaspora, c'est-à-dire dans la dispersion, et par voie de conséquence, devons-nous penser que toutes les nations, sans exception, seront contre Israël? Or, c'est un tout qui est relatif quand même. Si le mot « tout » signifie une grande partie, alors nous pourrions en conclure que la guerre contre Israël, qui est décrite dans Ézéchiel chapitre 38, pourrait bien concerner le grand conflit que les apôtres présentent comme devant être la ruine, est-il dit, soudaine des nations. On trouve cela dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, et dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Ça fait beaucoup de choses en même temps, je le reconnais, mais je ne tiens à ne parler qu'une seule fois de ce sujet-là, enfin, dans l'immédiat. Il est écrit également dans Ézéchiel 38, verset 8, « Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés de l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Et celui qui marchera contre les Juifs rassemblés ne sera pas seul. » Toujours dans Ézéchiel 38, versets 7 et 16, j'ai fait la synthèse, « Toi et toutes les multitudes, la multitude assemblée autour de toi, tu partiras du septentrion, donc au nord, toi et de nombreux peuples avec toi. » Alors, il s'agit donc d'un rassemblement des peuples, un rassemblement de nations contre un peuple déjà rassemblé sur les montagnes d'Israël, alors qu'il sera dans une paix relative à ce moment-là. Alors, ceci est clair, un rassemblement en entraîne toujours un autre. Alors, le premier ayant eu lieu, selon la Bible, la prophétie s'étant révélée parfaitement exacte en ce qui le concerne, le second rassemblement aura inévitablement lieu, car la prophétie est vraie dans son ensemble. Si le rassemblement d'Israël constitue un fait patent et historique, le rassemblement des nations constitue et constituera un effet patent et historique. Pourquoi ? Parce que actuellement, c'est la réalité sous nos yeux de ce rassemblement des nations contre Israël. C'est Jésus lui-même qui, avec beaucoup de raison, il disait qu'il ne pouvait en aucun cas donc se tromper. Dans Luc 21, 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme », disait-il. Alors, Jésus ne dit pas « peut-être », il dit bien « ces choses qui arriveront ». Il n'y a pas de supposition, c'est une affirmation, il est affirmatif. Alors, aujourd'hui, chacun sait que le pire peut arriver, et de façon tout à fait imprévue, plus rapidement que prévu. Nos calculs ne sont pas forcément exacts, même si nous disons que les mathématiques sont une science exacte. Quant aux prédictions de la parole de Dieu, elles sont certaines. Et il est dit, c'est dans le prophète Ésaïe, oui, je crois 60, attendez, je vais vous le dire. Oui. Ou 61, c'est 60-61. Que Dieu hâterait ces choses en son temps. Pardon ? Quel chapitre ? 60 ? Oui, ok. Alors, une nation puissante. Voilà, oui, merci. Alors, c'est 60, verset 22. Il est dit : Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Et nous sommes dans ce temps, justement, où Dieu est en train d'activer, de hâter l'accomplissement d'une foule de prophéties. Il n'y a jamais eu autant de prophéties bibliques. Quand je parle de prophéties, ce n'est pas Nostradamus. Non, comprenez-moi bien. Il s'agit des prophéties bibliques. Et il n'y a jamais eu autant de prophéties bibliques depuis 1948 jusqu'à maintenant qui se sont réalisées avec une telle intensité. Jamais, jusqu'à preuve du contraire. Alors, donc, aujourd'hui, je répète, chacun sait que le pire peut arriver. Avec ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, on peut dire que ces pays-là peuvent mettre tout l'Occident à genoux. Je sais qu'il y a des énergies de substitution qui sont en train d'être élaborées, mais à l'heure actuelle, si les robinets se ferment par là-bas, là aussi tout peut éclater très vite. Alors, puisque les jugements vont frapper donc toutes les nations, selon Ézéchiel 39, verset 21, pendant cette bataille, dite bataille de Gog, ou colère de l'agneau, qu'en sera-t-il des chrétiens ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Il faut donc consulter les textes bibliques et discerner par eux quand et comment se fera le troisième rassemblement. Nous sommes dans ces temps-là. Rassemblement de l'Église maintenant. Alors, si le rassemblement des nations contre Israël ne peut succéder qu'au rassemblement du peuple d'Israël dans la terre promise, il est absolument logique que ce ralliement des nations dans une position hostile à Israël et qui est le prélude à une gigantesque bataille atomique nous amène à nous poser cette question : est-ce que les chrétiens connaîtront eux aussi cette guerre ? Alors, en grec, il y a un tout petit préfixe que l'on trouve très bien appliqué, pas dans nos versions second malheureusement, et qui se situe dans Apocalypse au chapitre 3, verset 10. Je vais le lire pour être sûr que vous l'aurez lu. Vous allez dire, je vous fais confiance. Oui, oui, je vous fais confiance. Voyons, Apocalypse 3, 10, il est dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Or, si vous avez une version grecque, vous ne trouverez pas « à l'heure », mais vous trouverez « je te garderai de l'heure ». Si vous avez une version en français, Darby, par exemple, lui, il emploie le verbe, le préfixe correct, ek, hein, ecclésia, pour l'Église. Et là, c'est je te garderai de l'heure de la tentation. Alors, si on sait parler ce que cela veut dire, parler français, pardon, si on sait ce que parler français veut dire plutôt, eh bien, je te garderai à l'heure, ça veut dire pendant l'heure. Et si je te garderai de l'heure, c'est hors de l'heure. Et sur ce texte, je m'appuie personnellement pour me dire que les enfants de Dieu, à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde, pourront, avec la grâce de Dieu, éviter ce temps de tribulation. C'est ce que je crois. C'est en principe ce que beaucoup de frères de la Pentecôte croient également. Mais j'y tiens beaucoup à ce petit préfixe « ec » hors d'eux. Je te garderai hors d'eux. Alors, second a traduit, je répète encore, à l'heure, ça veut dire pendant. Enfin, j'espère parler le français, c'est la seule langue que je parle. Pour moi, c'est hors d'eux. Et ça, c'est le plus important. Alors, je reviens à nos moutons concernant l'Église. Est-ce que les chrétiens connaîtront, eux aussi, cette fameuse guerre ? Alors, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Et cela après avoir parlé précédemment dans 1 Thessaloniciens 4 de la ruine soudaine des nations et après avoir fait précéder l'annonce de cette catastrophe par celle de la venue du Seigneur, c'est 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Donc ça c'est la première phase du retour de Christ. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Petite parenthèse, parce que j'ai encore ça tout frais d'avoir corrigé les prestations, disons, des futurs pasteurs. C'est là-dessus que parfois ça bute dans ce qu'ils écrivent. Le retour du Seigneur s'effectue en deux phases bien distinctes. La première, c'est celle-ci, c'est-à-dire 1 Thessaloniciens 4, l'Église est enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là, seuls les éléments de même nature seront attirés par le Seigneur lui-même. Et les hommes ne verront pas à ce moment-là le Seigneur. Par contre, quand dans Zacharie 14, il est dit qu'il posera, c'est la seconde phase, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, alors là, tout œil le verra. C'est une nuance importante. Mais ce sont ces deux phases du retour du Seigneur. Une dans les airs, 1 Thessaloniciens 4, et l'autre quand il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Alors, oui. Noé, je pense à deux exemples. Noé est entré dans l'arche avant que le déluge recouvre la terre. On est bien d'accord. Ensuite, le fameux Lot, un proche parent d'Abraham, hein, il a été mis en sécurité à la montagne dans la petite ville de Tsoar, parce que le mot Tsoar, c'est petit. Hein. Donc, il a été mis à l'écart avant que Sodome et Gomorre ne soient détruites, avant que le déluge de feu tombe dans la plaine. Ces deux-là ont été mis à l'écart. Alors, il n'est pas écrit, il n'est pas parlé des survivants d'une guerre atomique, les survivants de la colère divine à laquelle ils n'étaient pas destinés, selon ce que nous venons de voir dans 1 Thessaloniciens. il est écrit « Nous les vivants », est-il dit, « Nous les vivants qui serons sur terre au moment de la venue ou du retour de Christ, les vivants dans la foi en Christ évidemment, nous serons tous ensemble enlevés ». Je ne parle pas ici du royaume de Dieu, etc., c'est un autre sujet, mais dans Matthieu 24, 31, il dit « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre ». Donc il n'est pas ici question, dans ce texte, du rassemblement du peuple d'Israël, mais des morts et des vivants en Christ. Chaque chose en son temps. On a commencé avec le rassemblement d'Israël, c'est Dieu qui a commencé comme ça. Ensuite, il est fait mention du rassemblement des nations et nous arrivons à ce fameux rassemblement des enfants de Dieu qui seront enlevés. Donc, 1 Corinthiens 15, verset 51 dit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Transmutation des corps, donc. « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. » Alors, c'est quelque chose qui nous dépasse, évidemment, sur le plan de l'explication ou du commentaire, parce que notre petit ordinateur a du mal à enregistrer ces choses. Nous vivons dans l'espace et dans le temps, nous vivons enfermés dans un corps et on a du mal à s'imaginer qu'il y ait une possibilité, oui, je vais y arriver, de transformation de nos corps en un instant, en un clin d'œil. Ça n'entre pas dans le petit ordinateur qui est là-haut, hein. Oui, l'heure vient où cette grande foule des élus se trouvera rassemblée, nous est-il dit, c'est Apocalypse 7, 9, devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Alors cet enlèvement ou ce rassemblement sur les nuées du ciel avec les anges autour du Christ, nul ne sait ni le jour ni l'heure de son accomplissement rapide, mais il est absolument évident qu'il aura lieu avant le jugement des nations. J'avais un cher collègue qui était professeur à Aix-les-Bains, à la fac de théologie d'Aix-les-Bains. Il s'appelait André Lamorte. Il est décédé il y a déjà longtemps. Et il était professeur d'Ancien Testament. Et je me rappelle l'avoir entendu dire au moment de la guerre, c'est la guerre des six jours, que c'était là la fin du temps des nations. Alors, je reprends un peu notre thème. Nous sommes dans cette période de la fin du temps des nations. Il n'y a pas une date fixe pour la fin du temps des nations. Je répète, Dieu va délaisser progressivement les nations pour se tourner vers Israël de plus en plus. Et je le répète encore, excusez-moi d'enfoncer le clou, je sais que je suis âgé, mais la sénilité n'est pas encore arrivée à son terme. Je répète, l'histoire des nations dépend de l'histoire d'Israël. Si on refuse l'histoire d'Israël, on refuse notre propre histoire. Nous sommes enclenchés, je peux dire, dans l'histoire d'Israël et nul n'arrêtera le mouvement d'horlogerie que le Seigneur lui-même a déjà déclenché en vue des événements de la fin des temps. Je ne parle pas ici de la fin du monde, mais je parle de la fin d'un monde, c'est-à-dire de la fin d'une dispensation, on va dire ça comme ça, la fin d'un temps, mais ce n'est pas pour autant la fin du monde. Dernière chose, le rassemblement d'Israël est en somme le rassemblement des nations, des nations contre Israël qui s'accomplissent de nos jours, constituent dans le contexte prophétique biblique, on peut dire les signes évidents que le Christ, le vrai Messie, le roi des rois, ne va pas tarder à réapparaître et à rassembler autour de lui tous ses élus. Alors Marc, au chapitre 13, verset 23, dit « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance », est-il dit. Dieu ne nous laisse pas pantelants, ne sachant pas vers qui nous tourner, ne sachant pas en quel temps nous sommes. Il est plus tard que nous ne l'imaginons à l'horloge divine. J'aime à le dire, mais je le dis encore aujourd'hui, il est plus tard que nous ne l'imaginons. Permettez-moi de vous dire cela, j'en ai terminé ou presque. Beaucoup de chrétiens bien évangéliques, pas encore angéliques malheureusement, mais beaucoup de chrétiens évangéliques ne se rendent pas compte des temps dans lesquels nous sommes arrivés et que nous sommes en train de vivre. Et je le répète, il est plus tard que nous ne l'imaginons à l'horloge divine. Dieu ne compte pas de la même manière que nous comptons. Il a, comme je l'ai dit au début de cet entretien, il a tout préparé d'avance. Il a fallu 4000 ans d'histoire politique, économique et religieuse pour que, au temps marqué par Dieu, pas par les hommes, au temps marqué par Dieu, Jésus vienne parmi les hommes. 4000 ans d'histoire. Et les hommes ont cru faire les lendemains de leur histoire. Actuellement encore, tous nos chers ministres et autres responsables politiques s'imaginent faire l'histoire, être des rouages dans une grande histoire humaine. Ils le sont certainement d'une certaine manière, mais c'est Dieu qui a commencé l'histoire de l'humanité et c'est Dieu qui terminera avec l'histoire de l'humanité. C'est lui qui tient ce monde entre ses mains, ce ne sont pas les hommes. D'un instant à l'autre, tout peut être bouleversé et de façon, je dirais, plus rapide que nous l'imaginons à cause de ce que nous sommes en train de vivre et de ce que beaucoup d'autres vivront peut-être après nous, je n'en sais rien. Alors, soyez sur vos gardes, nous dit le Seigneur, je vous ai tout annoncé d'avance, telle est la recommandation de Jésus. Et enfin, dernier texte, dans Marc 13, 36, il est dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Je sais bien que, même en connaissant un peu la parole de Dieu, on peut avoir cette tendance-là à s'endormir sur nos lauriers, en disant, bon, depuis que le monde est monde, rien n'a beaucoup changé. C'est ce que dit également l'Écriture. Mais jusqu'à ce jour, 2011, il n'y a jamais eu, je le répète encore, autant de prophéties bibliques qui s'accomplissent sous nos yeux, avec une rapidité extraordinaire. Je pense que beaucoup de nos prédécesseurs auraient voulu voir ce que nous sommes en train de voir. Pendant des années, enfin il y a quand même 50 et quelques années, je ne sais plus combien, 55 ou 6 ans que je suis converti au Seigneur, pendant des années je me suis cassé la tête pour savoir comment les Juifs de Russie et des pays satellisés pourrait sortir de ce ghetto. Et le Seigneur, en un quart de tour, avec Gorbatchev, a permis que le pays puisse s'ouvrir au départ, même s'ils ont tout laissé sur place, leur bien, tout, ils sont partis avec la petite valise, et encore quand ils ont pu, ils sont rentrés en Israël. Mais en un quart de tour, en un tour de main, tous ces Juifs russes, ils étaient plus de 2 500 000 en Russie, enfin, tous, il en reste encore, évidemment, mais il y a une majorité qui est rentrée en Israël. Ils sont arrivés là-bas. Pendant des dizaines d'années, je me suis posé cette question, mais comment et quand pourront-ils sortir? Quand Dieu y met la main, ça se fait miraculeusement. Hein, j'aurais jamais imaginé cette possibilité-là. Et c'est, à l'époque, le chef suprême, disons, de l'URSS de l'époque, hein, qui va déclencher la chose. Mais d'un instant à l'autre, nous sommes donc dans ce temps de transition. Notre humanité vit sur un réel volcan, et pourtant, c'est ce qu'on voit aussi en l'Apocalypse, les hommes ne se repentent pas pour autant, malgré tout ce qu'ils peuvent voir, entendre. Non seulement les hommes bougent, notre terre bouge d'un bout à l'autre. Les fameuses plaques tectoniques qui se heurtent en dessous de nous. Des cataclysmes, vous allez me dire, je sais, il y en a toujours eu des cataclysmes, c'est vrai, mais pas autant que maintenant. Je sais aussi quelle est la réflexion, ah oui, mais avant on ne savait pas. Oui, je suis un homme, j'ai fait les mêmes réflexions en son temps. Mais tout est en train de bouger. Les hommes, la terre qui nous porte, Tout est en train de bouger. Et j'espère, permettez-moi en terminant de dire ceci, que les églises, les chrétiens que nous sommes, vont également commencer à bouger intérieurement. C'est là que tout commence. Ce n'est pas tellement s'agiter dont je veux parler. S'agiter, ça, on en trouve toujours des gens qui s'agitent, hein, surtout dans nos milieux. Oui, oui, beaucoup s'agitent, font du bruit. Mais je pense s'agiter intérieurement. Seigneur, que veux-tu que je fasse et qui veux-tu que je sois pour toi? Ça, ce sont les deux grandes questions à se poser soi-même, pas pour l'autre, pour soi-même. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est ce que disait Dieu à Ésaïe, qui enverrai-je? Et Ésaïe va répondre, me voici Seigneur, envoie-moi. J'espère que vous permettrez au Seigneur de vous envoyer là où il veut pour être des fidèles témoins de Jésus-Christ. Amen.